Ah, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez apprécié le temps de louange tantôt? Moi, oui. Et je trouve qu'on a été bénis par des célébrations du dimanche enrichissantes et enthousiasmantes dernièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Solide? Oui. Moi, c'est ce que je ressens. Et est-ce que ça peut arriver aussi de revenir chez toi après la célébration du dimanche puis te dire « je suis encouragé, je suis renforcé dans ma nouvelle identité de chrétienne ou de chrétien, puis je crois qu'il va y avoir des changements dans ma vie. » Est-ce que ça peut vous arriver? Amen, amen, oui, moi aussi. Maintenant, est-ce que ça peut arriver aussi des fois d'avoir ce désir-là puis de vivre des déceptions? Est-ce que ça peut arriver que t'espères, je rentre chez moi, les choses vont changer, puis une frustration de longue date, un conflit de longue date revient. Est-ce que ça peut arriver? Moi, oui. Si seulement le dimanche matin, on pouvait capter l'ingrédient secret, puis en faire une poudre, puis qu'on pourrait prendre la poudre puis la jeter dans la soupe de nos relations de la semaine. Il me semble que ça serait bien. Et vous savez, en cuisine, il existe de telles poudres. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Oui, on avait des amis suisses. En fait, ils étaient dans cette église. Je pense que c'était les Widmer. Il y en a qui les ont connus. Ils nous ont parlé d'une poudre secrète pour les... Bien, pour tous les cuisiniers, mais particulièrement bien pour les cuisiniers pas très doués, comme moi j'en suis un cuisinier pas très doué. Tu prends cette poudre-là qui s'appelle aromate, une poudre de saveur, puis tu peux jeter ça, pas trop, un petit peu dans n'importe quel effort culinaire, et ça rehausse le goût. J'en ai acheté, puis ça marche. Eh bien, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous par rapport à notre sujet de la vie spirituelle qu'on veut ramener dans notre vie de la semaine. Et c'est que, on va lire un texte ce matin qui nous parle, on va dire, d'une sorte de poudre secrète pour amener de la saveur, qui peut venir transformer notre vie de famille, mais au-delà aussi, ça peut être notre vie de colocation, ça peut être aussi notre situation à l'emploi. On va lire le texte ce matin, c'est dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16, je vais le mettre à l'écran. Mais d'abord, on va prier. Je vous invite à prier encore avec moi. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour la vie de famille. On te remercie aussi pour les deux familles qui présentent un enfant en te disant merci pour cet enfant ce matin. La famille Alexis et la famille Élisée. Et ce message est aussi pour eux, mais il est pour tous. Prépare nos cœurs pour le recevoir et que chacun puisse discerner quelque chose qu'il va rapporter, qu'il ou elle va rapporter à la maison. Au nom de Christ. Amen. Amen. Alors, on va lire le texte, Colossiens 3, 13 et suivant. Oui, c'est ça. Alors, vous verrez la première partie, on a l'impression qu'il parle de la célébration où tout le monde est ensemble. C'est la première diapo, puis il continue après. Vous allez voir que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Je recommence. On me dit de mettre le micro comme ça parce que ça va aider pour l'enregistrement. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On continue, il y a comme un changement de sujet ici. On rentre dans la vie de famille. Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfant, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur. Dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, le Maître que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Amen. Alors, le résumé de ce que je veux dire ce matin est ici. Pour avoir des relations fructueuses dans notre vie quotidienne, le Seigneur nous donne un ingrédient qui change tout. C'est de pouvoir vivre en lui. C'est pas compliqué. Pour avoir des relations fructueuses, le Seigneur nous donne un ingrédient qui change tout. Apprendre à vivre, pouvoir vivre en lui. Alors d'abord, une remarque sur le texte qu'on a lu. Je crois que tout le monde a vu, c'est un contexte culturel, social, historique, pas mal différent du nôtre. On a vu qu'il y avait des esclaves. Et puis, en fait, la manière que les foyers fonctionnaient à l'époque, c'est que les esclaves étaient des domestiques qui travaillaient dans le foyer, mais ils étaient la propriété de la famille, et plus particulièrement le père de famille, parce qu'à la tête du foyer, à l'époque, c'était le papa qui était le chef et qui avait, en fait, tout pouvoir. C'était comme ça dans la société dans laquelle l'Évangile a commencé. C'est vrai qu'on voit à l'occasion, dans le Nouveau Testament, une femme qui est chef de foyer, comme Lydie. Lydie, dans le livre des Actes, possiblement qu'elle était veuve et elle est devenue chef de foyer. Normalement, c'était le père, donc Paul s'adresse au père ici, puis il présume il est en charge. Une autre différence, les épouses et les enfants n'ont pas de droits, comme aujourd'hui, ou donc en politique, avec les droits de l'homme et tout ça, on reconnaît que tous les êtres humains ont des droits. Donc, c'était différent. C'était différent. Et on voit qu'il y a des inégalités dans la société de ce temps-là. Ce que le texte nous montre, c'est que l'Évangile ne nous enseigne pas ou ne leur enseigne pas de faire une révolution violente pour changer cela ou un mouvement par la force. Ce que l'Évangile apporte, c'est plutôt de dire « Soyez transformés par le message, rentrez chez vous dans la structure qui existe avec ses inégalités et grâce à l'ingrédient secret qui est cette nouvelle approche à la vie, de vivre dans le Seigneur, la qualité des relations va être transformée. » Et on peut croire aussi, on peut, et plusieurs historiens disent cela, que l'influence de l'Évangile a amené à la longue ces transformations dans la société jusqu'au monde moderne où maintenant nous avons les droits de l'homme. Alors, on pourrait en débattre. Là n'est pas l'essentiel d'aujourd'hui, mais c'est plutôt de voir comment l'apôtre dit « Sois transformé et rentre dans la vieille structure, amène un nouvel ingrédient, une nouvelle saveur. Jette de l'aromate dans la soupe. » C'est la même poudre, c'est le même ingrédient nouveau. Dieu veut venir transformer les relations dans ta famille. Alors, Paul l'explique un petit peu comme ceci, et j'espère que mes diagrammes vont marcher. Ah oui, c'est beau, OK. Alors, voici la manière humaine de comprendre et de fonctionner. Disons, avant l'Évangile, que ce soit comme dans l'Empire romain ou même aujourd'hui, si on donne à un être humain une position supérieure sur quelqu'un d'autre, notre tendance humaine, c'est de dire, mais oui, c'est mon privilège, je suis le patron, je suis le maître du foyer, par exemple, ou autre, et donc, c'est mon droit de commander. Et la personne en dessous de moi, c'est un peu peut-être à cause de qui elle est, de ce que, comme la place que Dieu lui a donnée, que d'une manière absolue, elle est en dessous de moi. Et donc, on a tendance à rendre absolues les hiérarchies. Et puis, c'est ça qui est arrivé dans les foyers de l'Empire romain. Et évidemment, ça fonctionne, mais c'est des relations où il y a beaucoup de souffrance. Aujourd'hui aussi, il y a cette tendance humaine dans chacun de nos cœurs d'absolutiser les hiérarchies, surtout quand c'est moi qui a la position de force. Et en fait, l'être humain qui souffre va dire, mais on va essayer de changer ça et c'est par la force. C'est une des options humaines où on va se dire, on va amener de la résistance pour soit se mettre au-dessus de la personne supérieure ou tout au moins quelque chose de semblable. Donc, si on pense par exemple aux esclaves dans ce temps qui travaillaient dans les foyers, ils étaient obligés de se soumettre, surtout si l'Évangile n'était pas présent, mais dès qu'une occasion était là, certains d'entre eux vont dire, mais je vais usurper le pouvoir, je vais m'enfuir ou quelque chose d'autre comme ça. Et c'est la même pensée sans l'Évangile dans le monde moderne. C'est-à-dire que c'est vraiment par la force, c'est vraiment par la prise de pouvoir qu'on va régler les inégalités. Et ça aussi, des fois, ça fonctionne. Mais ça brise les relations. En fait, l'approche spéciale de l'Évangile amène une troisième option qui est très puissante si on la met en pratique. Puis c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Et oh, il y a une croix qui manque. Ouais, elle n'est pas là, la croix. Voyez le cercle en haut? Ça, c'est Jésus. J'avais mis une croix dedans, mais elle a disparu dans les transferts informatiques. Donc, là, il y a une troisième personne dans la relation. Christ est là Et donc, si on reprend cette même idée du foyer de l'époque avec le maître et l'esclave, le Seigneur, premièrement, sauve chacun des deux. Paul parle ici au foyer idéal où tout le monde est venu à Christ. Et le supérieur ici, donc le maître, le pater du foyer, le père, il a compris de la part du Seigneur qu'il a un rôle de leader, mais devant Dieu, il est égal. Même son esclave est son égal devant Dieu. Il est son frère dans la foi ou sa sœur dans la foi. Et donc, le Seigneur va coacher la personne qui est maître d'une manière nouvelle pour que la relation soit transformée, qu'elle ne soit pas basée sur la force et la coercion, mais sur quelque chose de nouveau. C'est un leadership nouveau. Et la personne dans la position inférieure apprend elle aussi. Je suis égal devant Dieu. Je suis une enfant de Dieu. Et Jésus va la coacher dans une nouvelle approche, même si c'est parfois difficile, une nouvelle approche dans la relation. On verra aussi que le Seigneur va donner des instructions à la fois semblables et à la fois différentes aux deux personnes, dépendamment de leur rôle dans cette relation-là. Maintenant, cette nouvelle vie, avec cette poudre de saveur nouvelle qui est la vie en Jésus-Christ, donne des exigences qui ne sont pas impossibles à vivre. En fait, il faut regarder à la vie de Jésus lui-même. Cette vie-là inclut des attitudes comme celle-ci. Amour de l'autre comme un égal. Soumission, mais soumission active. On le voit notamment dans la manière que Jésus a vécu avec son Père céleste. Il lui était soumis, mais toujours dans la joie, toujours dans l'enthousiasme, l'obéissance aussi. Il était leader de son groupe, mais il avait une attitude de serviteur. Il cherchait l'amour, il cherchait le bien de ceux qu'il enseignait, de ceux qu'il dirigeait. Il acceptait de souffrir, sachant que sa récompense venait de Dieu et non des hommes. Et dans les possibilités d'action, choisir celle qui rend le plus gloire à Dieu. Donc, voilà comment Jésus a vécu. Et toi, si tu as reçu Christ, donc dans ta vie de famille, dans ta vie de travail et autres, il va te coacher, il va te guider pour vivre ces valeurs-là dans ces relations-là et pour les transformer, pour donner une saveur nouvelle. Il est venu, si tu l'as reçu dans ta vie, il est venu te dire, je t'élève à la position de fille de Dieu, de fils de Dieu. Il n'y a pas aucun être humain qui à mes yeux, est supérieur à toi. Mais il n'y a pas aucun être humain qui est inférieur à toi. Maintenant, je vais te donner l'Esprit-Saint pour vivre comme Christ a vécu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir les quatre types de relations qui sont mentionnées dans le texte et voir comment ça peut s'appliquer à aujourd'hui. Et il y a vraiment beaucoup à dire. Évidemment, il y a des choses sensibles là-dedans, on pourrait en parler longtemps. Je vais juste dire des choses essentielles. Et si je vous laisse sur votre faim, eh bien, je le comprends tout à fait. On va quand même parler de ces quatre relations. La première, elle est sous-entendue, c'est ma relation avec moi-même. Comment est-ce que l'Évangile vient changer ma relation avec moi-même? Et là, je dirais, c'est à peu près la même chose dans le temps des Colossiens, il y a 2000 ans, et dans notre monde d'aujourd'hui. En Jésus-Christ, je sais que je suis aimé. Je sais que j'ai une valeur à tel point que Dieu est venu me sauver. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. J'ai une dignité d'enfant de Dieu. Amen? Oui. Dieu me voit égal aux autres, pas en dessous, pas au-dessus. C'est ce que Dieu voit. Mais ils vont me placer dans des relations où il y a une hiérarchie. Mais j'amène cette nouvelle vision et les gens vont être frappés si je le vis bien. Je suis un papa peut-être, mais le Seigneur me révèle que je ne suis pas supérieur à mes enfants. Oui, j'ai un rôle d'autorité dans leur vie, enfin, moins maintenant, parce que ils sont dans la vingtaine, et puis des fois, je me sens inférieur. Ils sont pas mal intelligentes, mes filles. Mais même là, je suis égal. Mais quand elles étaient petites, il fallait que je me souvienne. Le Seigneur me disait, oublie pas, ce sont tes sœurs en Christ. Elles ont une dignité à mes yeux. Je suis en train de les développer. Et vous vous souvenez de la conférence de la semaine passée? Qui était là dimanche passé? Avez-vous aimé la conférence? C'est intéressant, hein? Et notre sœur Agnès nous a donné un bon exemple de comment la nouvelle poudre secrète a transformé sa vision d'elle-même pour ensuite changer sa manière de voir ses enfants. Vous avez noté ça? Et c'était puissant. Si vous n'étiez pas là, l'enregistrement audio est là sur notre site web. Je vous encourage à écouter ça, c'est pas mal bon. La deuxième relation qui est discutée ici par Paul, la relation maître-esclave, c'est pas la deuxième, mais on va commencer avec celle-là. En fait, ça n'existe pas dans, disons, malheureusement, ça existe encore dans notre monde, l'esclavage. Disons, pas dans nos vies, ici à Montréal, j'espère. Mais ça, les principes se transposent à ta relation employeur-employé, jusqu'à un certain point. Parce que tu vends tes heures de travail à un employeur qui te dit, voilà le travail que tu dois faire. Comprenez-vous? Il y a un côté semblable à l'esclave, sauf que tu gardes ta liberté, que tu as le droit de quitter ton travail. Mais en fait, les principes de vie chrétienne là-dedans, il y a quand même des choses très semblables. Et tu peux y amener la poudre secrète, ta vie avec le Seigneur, ta vie dans le Seigneur, qui va amener une saveur bénissante dans le milieu de travail, dans ta relation avec le boss. Amen. Alors, le texte qu'on a lu donne la situation idéale. Le boss, c'est un chrétien comme toi. Il y a des situations difficiles où le patron n'est pas dans l'Évangile et possiblement il est loin des principes de l'Évangile. Et il y a d'autres textes qui vont parler de ça. On n'a pas le temps de parler de ces cas-là ce matin. Parlons de toi comme employé. Eh bien, le texte dit, l'employé chrétien donne son maximum dans son travail. C'est l'attente de Christ pour toi que, même si c'est difficile, tu donnes ton 100%, tu donnes ton maximum, pas à cause du boss humain, c'est ce que le texte dit, pas pour bien parler, pas d'abord pour obtenir de l'avancement ou des privilèges. Ce n'est pas le but premier. Pas seulement quand le boss regarde. Je me souviens, j'avais un emploi une fois où on disait, le boss arrive, fais semblant de travailler. Et un chrétien, il devrait répondre, pas nécessaire, je suis déjà en train de donner mon 100%. Amen? Oui. Parce que le texte dit qu'il y a un boss suprême, le vrai boss, est en train de te regarder. Ben, il est avec toi. Et lui, c'est pour lui que tu travailles. C'est ce que le texte dit. Ça va amener une transformation de saveur dans la relation de travail, dans le milieu de travail. Les gens vont le remarquer, même si ce n'est pas le but premier. Moi, je veux plaire à Jésus, mais le boss va peut-être se dire, « Oh, Carline, elle a vraiment une attitude qui fait du bien à l'équipe. » Je dis Carline, mais ça pourrait être Elva, ça pourrait être notre frère Pascal, ça pourrait être notre frère Thibault, et ainsi de suite. De son côté, le patron chrétien, bon, est-ce qu'il y a des patrons chrétiens parmi nous? Peut-être pas beaucoup. T'es un patron, toi? Bon, OK. Alors, c'est pour toi. Troy, s'il est élu, va être une sorte de patron, un patron serviteur. Et il y en a d'autres aussi. Mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation où tu embauches quelqu'un pour faire des rénovations dans ta maison, par exemple. Le patron chrétien sait qui n'est pas supérieur à ses employés. C'est le Seigneur qu'il sert et il aura des comptes à lui rendre. Donc, il va traiter ses employés avec justice, avec respect. David, c'est un employeur, c'est un patron. Il y en a d'autres aussi. Avec respect et même avec amour. Hein? Peut-être qu'un patron pourrait se dire, mais c'est mes employés, je leur fais déjà une faveur de leur donner une job, pas besoin de les aimer, pas besoin d'aller trop loin dans la justice. Non, le patron chrétien sait que Christ l'amène à aller plus loin que ça. Et il va faire des sacrifices personnels pour le bien de la communauté de travail. Et les gens vont remarquer la différence. Parlons de la relation parent-enfant maintenant. On a vu que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment mis en valeur dans l'Évangile. Il faut les traiter avec respect, même si on doit les instruire et les discipliner. L'instruction spéciale que les enfants reçoivent, ils ne sont pas ici, mais vous pouvez leur dire à la maison, obéis à tes parents, obéis de tout cœur, obéis en toutes choses. Alors, dans le Seigneur, il y a des relations où la soumission active est nécessaire et elle est fructueuse. On a vu que Jésus l'a vécu. Je suis sous l'autorité d'une autre personne et je vis une soumission active. Elle n'est pas superficielle. Elle n'est pas passive. Des fois, ça peut m'arriver. Maintenant, je suis professeur et je donne des cours. Et des fois, ça peut arriver qu'un étudiant, il dit, je vais me soumettre, mais on sent qu'il y a de la bisbée. On sent qu'il a de la critique. Il est pas content. Il y a du murmure. Évidemment, il faut que je l'écoute. Mais la soumission dont il est question pour les enfants ici, c'est quelque chose de positif, d'heureux. Et cette soumission active apporte des efforts, des nouvelles idées à la relation. Elle va enrichir le parent. Alors, parlons maintenant de la relation époux et épouse avec laquelle Paul commence ici. Et est-ce que j'ai un diagramme? Je pense que oui. La croix a disparu encore une fois. Alors, mais on va dire que la raison de ça, c'est que Christ est la présence invisible dans notre mariage. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, chacun des deux époux a une relation avec Christ, a été transformé par Christ. L'époux, le mari, sait qu'il est égal devant Dieu, même s'il a un rôle particulier. L'épouse sait qu'elle est égale devant Dieu. Elle a aussi son rôle à elle. Les deux vont apprendre à avoir une relation avec Christ ensemble et avec les enfants, mais au départ, ta relation personnelle avec Christ qui va renforcer ton identité, qui va te remplir de l'amour de Dieu le Père pour toi et qui va te donner des pistes pour mettre en pratique toutes ces relations particulières, dont celle avec ton conjoint. En fait, on voit que même à l'époque de l'Empire romain, où il y a une hiérarchie, n'oubliez pas, le père de famille, il a tous les droits, les femmes n'avaient pas vraiment de droits officiellement. Et déjà ici, la poudre secrète amène quelque chose de différent. En disant au mari d'aimer sa femme, à mon avis, on s'éloigne de la hiérarchie froide et absolue et ça s'en va vers un partenariat de personnes égales, même si les rôles sont différents. Celui qui a écrit ça, c'est l'apôtre Paul, et il dit ailleurs la façon que la hiérarchie homme-femme est relativisée par l'Évangile et par la réalité de la vie. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 11, il dit, « Dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et dans le Seigneur, l'homme n'existe pas sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, référence au récit de la Genèse, de même, l'homme naît de la femme, référence à la réalité de notre naissance à tous. Et tout vient de Dieu. » Voyez-vous que, oui, il y a la hiérarchie, mais il y a aussi la complémentarité, le partenariat. Et on s'en va dans cette direction. Quand Dieu parle aux femmes d'abord, leur dit, « Soumettez-vous, encore une fois, soumission active, aimante, aux hommes, aime ta femme. » Et il va aller plus loin dans Éphésiens, « Aime ta femme comme Christ a aimé son Église. » La femme doit exercer la soumission dans une attitude d'amour actif. Tout comme de son côté, le mari doit exercer l'amour dans une attitude de soumission envers Dieu, bien sûr, mais aussi envers sa femme. On s'en va vers un partenariat dynamique où on a des rôles différents, mais que ce que les gens doivent remarquer, c'est, il y a de l'amour, il y a du respect, il y a le développement et l'épanouissement des deux personnes. Sujet compliqué, vous avez sûrement des questions, des points de vue, peut-être des objections. Moi, je vais juste terminer avec une illustration qui vient de mon mariage avec Cheryl. Vous connaissez ma femme? Je crois qu'elle n'est pas là. OK, je peux parler d'elle, c'est bon. Non, mais elle connaît l'histoire. Elle m'a donné le OK pour cette histoire. Alors, ça s'est passé en 2011. J'étais membre ici. Vous vous en souvenez peut-être certains d'entre vous. En 2011, j'ai accepté un contrat de travail pour aller à Sudbury pendant 8 mois. J'ai enseigné là-bas pendant une année scolaire. 8 mois. Et Cheryl et les filles, on a décidé qu'ils allaient rester à Dorval dans notre maison pendant ces 8 mois. Puis moi, j'allais aller à Sudbury. J'aurais un pied à terre, mais je reviendrai à toutes les 2 semaines par autobus et pour 2 fins de semaine par mois. Une décision qu'on a prise en couple. Et même, on a consulté les filles. Et on a pris cette décision. Puis, 1 mois environ avant mon départ de Sudbury, Cheryl reçoit un coup de fil d'une bonne amie. Et cette amie l'invite à l'accompagner dans un voyage missionnaire au Rwanda, en Afrique, pendant, je pense, 3 semaines, vers la fin de l'été. Mais au même moment où moi, je devais préparer mon départ et partir pour Sudbury. Alors, certains d'entre vous connaissez ma femme. C'est une femme d'action. C'est une femme de leader et de décision. En plus, passionnée par la mission, amoureuse de l'Afrique, et elle aimait beaucoup les objectifs de cette mission, un pays qui travaillait pour se relever d'une grosse crise et qui invitait les chrétiens à les aider. Et elle possédait des dons et des habiletés utiles pour le succès du projet. Elle m'a dit, « Marc, je veux y aller. Toi, Marc, tu vas vivre une aventure passionnante à Sudbury. Eh bien, le Seigneur me donne une occasion à moi aussi de vivre une aventure enrichissante avec lui. Je veux en profiter. » Bon, je vous ouvre mon cœur. Je n'avais pas la paix par rapport à ça, ce départ de Cheryl. J'ai prié de mon côté. Je suis allé voir, en Jésus-Christ, je suis allé voir le boss, je l'ai prié. Je voyais les désirs du cœur de ma femme et tout le bien que cette mission pouvait apporter, y compris pour elle. Mais au bout du compte, je n'avais pas la paix. Et je suis allé voir Cheryl, j'ai dit, « Cheryl, je préfère que tu n'ailles pas au Rwanda. Je n'ai pas confiance que j'ai la capacité de bien préparer mon déménagement à Sudbury, mon départ, mes cours, et aussi bien préparer la rentrée scolaire des enfants sans que tu sois là, sans ton aide. » J'ai dit, « Je ne vais pas te forcer à rester. Je vais accepter ta décision, mais il faut que tu saches que j'ai des inquiétudes. Je te demande de ne pas aller. C'est ma préférence. » Bon. Ça, c'est des choses qui arrivent dans les vrais couples. Elle a prié, et vous savez quoi? Elle a fait le sacrifice. Elle est restée, sans se plaindre, sans regarder en arrière. Wow! Et vous savez, je me suis vraiment senti aimé dans cette situation-là, appuyé. Je termine juste en disant que dans le couple chrétien, la soumission que Christ demande n'est jamais forcée par l'autre personne. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est dit à la personne elle-même. Et c'est vraiment de l'amour lorsque c'est une décision libre. Donc, concluons. Pour avoir des relations fructueuses, le Seigneur nous donne un ingrédient qui change tout, ce pouvoir, ce privilège de vivre en lui. Il y a vraiment des possibilités infinies d'espoir, de régler des difficultés, même dans des situations très difficiles, avec cette nouvelle vie en lui. Admi et Tatiana, Elson et Mirlande. Alors, vous allez exprimer des engagements par rapport à vos filles, à vos enfants, ce matin, et on va vous appuyer. Mais souvenez-vous de vivre en Christ. C'est la solution. C'est vraiment la base de tout. Lui va vous guider dans chaque situation et dans la transformation de vos relations qui vont devenir plus fructueuses encore qu'elles le sont déjà. Est-ce que vous êtes encouragé ce matin? Oui? Bon. Toi qui m'écoutes, souviens-toi de la même chose. Tu as le privilège de vivre en lui. Tes problèmes sont uniques à toi. Amène cette relation spéciale dans tes relations. Et c'est sûr que le Christ veut l'utiliser pour amener des changements et même amener des gens vers lui. Peut-être ton patron, peut-être ta colocataire, ton enfant, ton parent. Pour y arriver, mes amis, continuons aussi à avoir des célébrations du dimanche extraordinaires, de plus en plus fortifiées par la présence de Jésus lui-même. Paul commence en disant, persévérez dans l'enseignement de la parole, dans la prière, l'encouragement mutuel. Ça peut être des tapes dans le dos positives. Parfois, ça peut être un mot de « Hey, je t'exhorte. » Peut-être quelque chose pour te ramener dans le bon chemin. Il faut apprendre à faire ça dans la douceur, parce qu'on en a tous besoin. Personne n'est supérieur à un autre. Toute cette musique dont il est question aussi dans le texte, continuons à la développer ensemble pour avoir des célébrations joyeuses ou est-ce qu'on s'en va chez nous pomper pour vivre une vie nouvelle. Paul dit ceci, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre connaissance à Dieu le Père. » Amen. Je vous invite à prier avec moi.
Peut-être levez-vous.
Levez-vous, on va prier ensemble. Oui, Seigneur, merci pour le fait que tu ne nous donnes pas simplement des commandements, des hiérarchies. Non, tu nous donnes une transformation de notre vie intérieure par ta présence, par ton amour. Et on rentre dans nos relations avec une force nouvelle. Oh, aide-nous, Seigneur. Et aide en particulier les familles pour lesquelles on va prier maintenant, pour lesquelles on va vraiment entrer en alliance, en quelque sorte. La famille Alexis, la famille Élisée, veuille les bénir profondément maintenant. Et soit avec la personne ici ce matin, peut-être que tu es débobiné, tu es découragé. Tu te dis, comment je vais faire avec le problème que j'ai devant moi? Oh Jésus, viens fortifier cette personne maintenant. Et dans ta sagesse, montre-lui le prochain pas à faire. Parle-lui, Seigneur, toi qui es dans sa vie. On prie toutes ces choses au nom de Jésus.